Mesdames et messieurs, bienvenue dans la deuxième tranche de l'émission Okapi Service de séjour. Merci de votre fidélité à ce programme de la vie au quotidien. Nous allons à présent parler de la foresterie communautaire. Quels sont les avantages de ces de la foresterie communautaire et quelles sont les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de cette approche? On en parle aujourd'hui avec le professeur Michel Mumba, expert en agroforesterie. Professeur, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission et nous avons en ligne Patrick Kaondoa, journaliste environnemental. Patrick, bonjour.
Cher confrère, bonjour au professeur également.
Bienvenue à tous dans ce magazine. Pour participer à cette émission, eh bien, le standard est ouvert. Composez les 099-706-9941. Écrivez-nous à service@radiookapi.net. Nyangasa la mise en onde. Tati Mapuku assure la réalisation et la coordination de cette émission au micro. Jody Daniel Kachama, bienvenue à tous.
Connaissez-vous la monkeypox? C'est une maladie virale contagieuse qui se transmet principalement par contact direct de l'animal trouvé mort ou malade avec ou sans signe de monkeypox à la personne non malade. Entre les hommes, la transmission de la monkeypox s'est faite à travers des lésions, voire plaies de liquide organique, comme la sueur, des gouttelettes respiratoires, des objets souillés par des malades de monkeypox et le rapport sexuel avec une personne malade de monkeypox. Pour nous protéger contre la monkeypox, il faut éviter de toucher les animaux malades ou trouver morts sans cause, éviter tout contact physique ou sexuel avec une personne malade de monkeypox et éviter tout contact avec les objets souillés par des malades de monkeypox.
Pour plus de renseignements, vous pouvez appeler gratuitement au 151 ou adressez-vous directement à un prestataire de santé ou à un agent de santé communautaire.
Bien, on venait de parler de la variole des singes. Maintenant, nous allons parler de la foresterie communautaire. Quels sont les avantages de cette approche et quelles sont les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre? Eh bien, vous savez, la foresterie communautaire est une approche de gestion des forêts par les communautés locales. La RDC et le Gabon, deux pays du bassin du Congo, ont pris conscience de la nécessité de redonner aux peuples autochtones et communautés locales les droits de gérer les ressources forestières. Cependant, ce modèle ne réussit pas toujours dans les deux pays précités, malgré les bonnes intentions des autorités de ces pays où les communautés villageoises l'ont adopté. Alors, c'est ce que révèle une enquête journalistique réalisée dans les zones forestières du Gabon et de la RDC. Alors, quels sont les avantages et les difficultés enregistrées dans le développement, dans la mise en œuvre de la foresterie communautaire en RDC et comment les surmonter? Eh bien, nous allons aborder ces questions avec nos invités. Je commence avec Patrick Kaondoa, qui est journaliste environnemental. Patrick, ravi de vous avoir aujourd'hui dans cette émission. Vous avez mené cette enquête par rapport à la foresterie communautaire au Gabon, en République démocratique du Congo. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui avait motivé cette enquête et quelles sont les conclusions?
Merci beaucoup, cher confrère. Cette enquête a été exactement motivée par le fait que il y a eu cette volonté des autorités de ces deux pays à mettre en œuvre ces modèles pour la gestion des forêts et la foresterie communautaire. Et nous, on a été motivés à comprendre, en fait, depuis que cela a été décidé par les autorités de deux pays, quelles sont les avancées, quels sont les défis également en matière de la mise en œuvre de la foresterie communautaire. Et c'est là où on a mené notre enquête et on a constaté que dans les deux pays, la foresterie communautaire, et c'est là qu'on soit en RDC ou au Gabon, c'est en tout cas une réalité à double facette. Pourquoi c'est une réalité à double facette? Parce que dans certaines communautés, on trouve quand même qu'il y a quelques avancées par rapport à la mise en œuvre de la foresterie communautaire, alors que dans notre communauté, il y a certains blocages par rapport à la foresterie communautaire. Et pour les cas, en fait, des deux pays, et c'est la réalité aussi pour la République démocratique du Congo, Ce qu'on a compris après conclusion de notre enquête, c'est que dans certaines communautés où la foresterie communautaire n'a pas marché, il y a un problème par rapport à l'information. Donc il y a un manque d'information au sein de la communauté sur la foresterie communautaire et les avantages que la foresterie communautaire offre à la communauté. Et ce sont des communautés en fait qui dépendent des forêts, et pour qu'ils comprennent l'avantage, c'est vraiment un casse-tête. Il y a également un problème par rapport aux autorités coutumières, parfois des chefs de chefferie, et qui eux-mêmes bloquent au fait le processus par rapport à l'acquisition de la foresterie communautaire, parce que pour avoir les titres de la foresterie communautaire, la demande doit être soumise par le chef de la chefferie auprès du gouverneur de province, et il y a ces leaders locaux, chefs de chefferie également, qui tirent des avantages de leur forêt et ne veulent pas que leur communauté puisse avoir une mainmise sur ces forêts-là.
Oui.
Mais également, autre chose qui bloque, c'est par rapport aux retombées économiques de ces forêts communautaires, parce que c'est aussi... La plupart des fois, on constate que les communautés sont sensibilisées sur la protection de l'environnement, la biodiversité et tout, mais en contrepartie, qu'est-ce que ces communautés gagnent en termes économiques? Ça pose également problème par rapport à la mise en œuvre de la foresterie communautaire. Mais malgré ces difficultés-là, il y a quand même quelques exemples réussis de la foresterie communautaire en RDC et notamment au Gabon. Et c'est dans ce sens qu'on a montré dans notre enquête que c'est vraiment une double facette de la foresterie communautaire.
D'accord. Bien, on revient à vous tout à l'heure, le temps d'accueillir le professeur Michel Mbumba, expert en agroforesterie. Bonjour, professeur.
Bonjour, monsieur Daniel.
Alors, c'est quoi, quand on parle de la foresterie communautaire, aidez-nous à comprendre dans des termes beaucoup plus simples de quoi s'agit-il.
Ok, donc la foresterie communautaire, comme on vient de dire, monsieur Patrick, ce sont des forêts qui sont gérées par... les communautés locales. Mmh. Alors ici, je voulais préciser, lorsqu'on parle de forêts, parce qu'il y a plusieurs gens qui les comprennent à leur manière, mais nous devons comprendre que la forêt, c'est, bon, si vous voulez, un écosystème ou encore une portion des terres qui est constituée principalement de peuplement d'arbres, d'arbustes, puis d'arbrisseaux, et ainsi que l'ensemble des autres espèces qui lui sont associés et qui sont aussi en interaction au sein de ces milieux. Et il y a des gens qui parlent aussi de la, qui définissent la forêt comme étant aussi une occupation, au fait des terres occupées par des arbres sur une superficie de 0,5 hectares et pouvant, bon, avec des arbres qui peuvent prendre des hauteurs de d'environ 5 mètres ou encore plus. Alors, ici, nous devons se comprendre lorsqu'on parle de la foresterie communautaire. Ici, en RDC, on parle beaucoup plus des forêts, si vous voulez, des concessions forestières des communautés locales. Ah, c'est ça, donc, selon, si vous voulez, la loi numéro 011 du 29 août 2002, bon, portant code forestier en RDC. Donc, nous parlons beaucoup plus des forêts, de concessions forestières des communautés locales.
Exemple, quels sont les... Vous avez des exemples à donner à travers le pays?
À travers les
des
pays.
Concessions forestières qui appartiennent aux communautés locales, qui sont gérées, disons, par les communautés locales.
Oui, donc quand vous allez, par exemple, à l'Équateur, bon, même bon, au niveau de la province orientale, il y a beaucoup de concessions qui sont gérées par les communautés locales. Au fait, c'est une demande. Hein, donc, les communautés locales sollicitent une demande ou encore font des projets qui vont soumettre maintenant auprès des autorités. Et même ici à Kin, il y a une direction qui s'appelle une division, dirais-je, hein, qui s'appelle division de la foresterie communautaire, hein, qui se trouve au sein de la direction générale des forêts. Donc au ministère.
Donc cela veut dire que ce n'est pas le gouvernement, l'État qui gère les forêts, il confie la gestion à une communauté.
Oui, c'est ça. C'est là où je voulais parler même de classification des forêts en RDC. Hein. Donc lorsqu'on parle de forêts en RDC, il y a trois types de forêts. Selon l'école toujours, il y a des forêts classées, il y a des forêts protégées et les forêts de production permanente. Maintenant, lorsqu'on parle des forêts classées, donc ici nous voyons des forêts...
Les parcs, non?
Oui, oui, il y a des forêts classées sans des parcs, aussi des parcs, des réserves naturelles. Il y a des jardins botaniques, bon, comme vous voulez, les aires protégées.
Oui, les aires protégées.
Oui, à ne pas confondre avec les forêts protégées, qui sont celles soumises à un régime juridique moins restrictif quant aux droits d'usage et aux droits d'exploitation. Il s'agit des forêts nécessaires pour la protection des pentes contre l'érosion, la protection des sources et des cours d'eau, la conservation de la biodiversité, la conservation des sols, ainsi de suite. Mais par contre, les forêts de production permanente, ce sont des forêts soustraites, des forêts protégées par une enquête publique, donc par l'État, en vue de les concéder. C'est là où on parle de forêts, de concessions forestières des communautés locales. C'est dans cette catégorie.
C'est dans cette catégorie.
Oui, les forêts de production permanente.
Permanente. Voilà. Voilà. Donc, ce ne sont pas des forêts classées ni protégées.
Non, 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 non.
Alors, comment se fait concrètement cette gestion par la communauté?
Normalement, les communautés s'organisent, s'organisent en leur manière. Donc, voilà pourquoi je reviens sur ce que mon confrère Patrick a dit. Donc, quand il n'y a pas sensibilisation, les gens ne sont pas intéressés. Il faut d'abord parler aux gens de quoi il s'agit, qu'ils puissent trouver leur intérêt. Parce que lorsqu'on parle de foresterie communautaire, on voit l'appropriation. Les gens doivent considérer la forêt comme étant leur propriété. Et on parle aussi de la participation. Donc, si déjà quelqu'un refuse ce projet-là, donc ça ne va pas marcher. Donc, comme les confrères viennent de dire, il y a des chefs coutumiers qui ne veulent pas. Ça ne peut pas marcher. Alors, j'ai cité
mais là. Oui, on a l'impression que c'est plus géré par les chefs coutumiers, c'est eux qui décident.
C'est ça la grande difficulté. Normalement, on doit parler de la participation, le partage des bénéfices, la responsabilisation, les intérêts pour la communauté, pas pour un individu. Et je crois que si nous devons nous entendre, lorsqu'on parle des avantages, donc c'est d'abord la durabilité. Si vous voulez, ou la gestion durable des forêts. Et lorsqu'on parle de gestion durable des forêts, on voit les trois aspects, le social, l'économie et l'environnement. Les gens ne doivent pas seulement commencer à protéger l'environnement sans pour autant qu'ils puissent en tirer bénéfice.
Bénéfice, oui, bien sûr.
C'est ça le grand problème. Donc, il faut commencer par là. Donc, il faut qu'ils puissent comprendre, qu'ils puissent s'accorder. Et c'est là qu'ils vont maintenant s'y mettre pour la bonne gestion de ce qu'on appelle la foresterie.
Et quels sont les bénéfices que la communauté peut tirer de la gestion
Justement, lorsque vous protégez par exemple une forêt, il y a ce qu'on appelle les bénéfices, donc si vous voulez, les paiements des services environnementaux. Normalement, ils doivent être informés que lorsque nous protégeons telle forêt, il y aura peut-être la séquestration du carbone. Qu'est-ce que nous en tirons comme profit? S'ils ont l'information, je pense que... Et puis, il faut respecter aussi les clauses. Vous voulez donner l'information, mais si, par exemple, aujourd'hui, il y a des bénéfices, ils entendent que la République démocratique du Congo a reçu autant de millions pour avoir protégé telle forêt, mais eux,
ils
ne voient rien.
Oui.
C'est ça, donc, la grande difficulté.
Bien. Patrick Kaondoa, est-ce que, lors de votre enquête, est-ce que vous avez pu dénombrer ou identifier des projets de foresterie communautaire où réellement la communauté bénéficie des retombées de la gestion de la forêt?
Merci beaucoup. En fait, jusqu'à présent, les communautés attendent encore les retombées par rapport à la foresterie communautaire, parce qu'au niveau de la province du site Kivu, on a beaucoup plus focalisé notre enquête. Les forêts communautaires sont en train maintenant d'être accordées aux différentes communautés, et les communautés sont vraiment impatientes de voir les retombées de la conservation de ces forêts. Il y a même certaines communautés qui ont exprimé leur souhait de voir leurs forêts servir dans les cadres d'accords de paiement pour des services écosystémiques, comme venait de le dire le professeur. Mais par rapport à ça aussi, il y a beaucoup trop de problèmes à rencontrer sur le terrain. Vous allez trouver que ce sont de forêts communautaires qui sont situées dans des zones d'accès difficiles. Pourtant, le tourisme peut également aider à rapporter quelque chose à ces communautés-là. Mais vous allez voir qu'il faut parcourir des kilomètres et des kilomètres pour arriver à ces forêts communautaires, et ça pose encore un autre problème par rapport à ça. Et comme venait de le dire encore le professeur, la communauté, elle n'attend que ce qu'elle va tirer comme intérêt dans la protection de ces forêts. Parce que ce sont en fait des communautés qui vivent parfois de la chasse. Donc tous les produits que la communauté utilise, ce sont des produits qui viennent de ces forêts-là. Maintenant, pour que ces populations arrivent à protéger leurs forêts, il faut que ces populations tirent des actions qui sont mises en œuvre en attendant les retombées, parce que ce n'est pas aujourd'hui qu'il y aura ces retombées-là. Mais il faut quand même qu'il y ait d'autres actions à côté d'accorder des titres aux communautés. Il faut qu'il y ait quand même quelques actions qui sont mises en œuvre pour aider à ces communautés qui dépendaient de ces forêts-là à vivre quand même tant soit peu, notamment en matière de d'éducation, de santé. Et donc, l'État ou les organismes qui interviennent dans les secteurs de la foresterie communautaire peuvent construire, par exemple, des écoles, distribuer aux agriculteurs des semences, et pour ceux-là qui font de l'élevage également, qu'il y ait ces soutiens-là, pour aider ces communautés à comprendre qu'il y a quand même un avantage qui peut ressortir de la protection de leur forêt.
Bien, nous parlons de la foresterie communautaire. Quels sont les avantages et les difficultés des mises en œuvre? Vous voulez participer à cette émission, composez les 099-706-9941. Écrivez-nous également à service@radioocapi.net.
Vous nous écoutez déjà en FM et sur toutes les plateformes digitales. Rejoignez-nous dès à présent sur le bouquet Canal+, au canal 572 pour Radio Okapi et au canal 573 pour Radio Okapi Enfant. Radio Okapi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité d'Okapi Service.
Foresterie communautaire, quels sont les avantages et les difficultés des mises en œuvre? Alors, professeur, dites-nous, quels sont les avantages que présente ce mode de gestion et quelles sont les difficultés qu'on rencontre à ces jours?
Revenons un peu sur ce que j'ai dit au début. J'ai parlé de la gestion durable, la gestion durable des forêts. Et lorsqu'on parle de gestion durable, c'est pas une personne ou un individu, mais on voit maintenant la société qui tire à profit de tout ça. Alors ici, on voit trois avantages sur le plan social, sur le plan économique et sur le plan environnemental. Commençons d'abord sur le plan social. Sur le plan social, normalement, les organisateurs de l'État, je veux dire, l'État ou encore l'État au niveau national ou au niveau provincial, doit aider la population à retrouver son compte sur le plan social. Par exemple, en termes de formation des membres de communautés à certains métiers forestiers, aménagement, leur conférant une technicité et une expertise dans ces domaines-là. Parce qu'ils sont soit ils vivent dans la forêt ou encore à l'extrémité, à proximité des forêts. Et on peut aussi parler de la responsabilisation des communautés locales dans la gestion forestière, création par exemple d'une certaine fierté, comme on a dit, on a parlé ici de l'écotourisme. L'écotourisme, c'est vrai, ça va pas seulement générer des recettes pour la population, mais ça peut aussi attirer les gens vers cette population. Les gens sont connus aussi, et du point de vue social, on peut aussi le parler de cette population là. Alors, et on peut aussi parler des visites, mais mon confrère a parlé de contraintes là. Donc, les zones sont enclavées.
Enclavées, oui.
Enclavées, dont l'État doit fournir beaucoup d'efforts pour rendre ces zones accessibles. Et puis, la réalisation des micro-projets à caractère social, donc des constructions des habitats modernes, des forages pour l'eau potable, création d'économies, même l'électrification aussi des villages. Ici, les gens ne voient que la SNEL, et pourtant on peut aussi construire
des micro-centrales en utilisant les énergies propres, renouvelables.
C'est facile aussi, ça coûte pas cher, c'est question que les gens puissent s'informer. Alors bon, sur le plan maintenant écologique ou encore environnemental, ces forêts là peuvent abriter des espèces Ah, peut-être qu'ils sont peut-être en voie de disparition. Et puis, on peut aussi séquestrer le carbone. Hein. Donc, pour la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Et sur le plan économique, ça peut aussi permettre aux gens d'avoir des revenus, hein, des revenus de manière comment collective. Et c'est là où j'ai parlé aussi de la gouvernance locale. Alors, lorsqu'on parle de la gouvernance locale, ce n'est pas un individu qui prend des décisions.
Oui.
Ici, on voit la participation, la redevabilité, l'équitabilité, et même la lutte contre la corruption.
Mm-hmm.
Ah, donc, tout ça, et puis l'intégration de la dimension genre aussi, tout ça, ça fait partie aussi d'une bonne gouvernance aussi.
Professeur, est-ce que vous avez des exemples précis des foresteries communautaires qui marchent bien ici chez nous?
Personnellement, je pense que c'est mon confrère Patrick qui était sur le terrain, hein, qui connaît mieux.
Hein. Oh,
bon, moi, je parle en tant que scientifique. Hein, en tant que scientifique, bon, c'est vrai, j'ai aussi des liens avec certains cadres et agents du ministère de l'Environnement et du Développement Durable, et plus précisément ceux qui sont dans la direction de gestion des forêts.
Des forêts.
Oui.
Bien, on va accueillir un auditeur, Achille de Lubumbashi. Bonjour. Achille, vous êtes à Lubumbashi, bonjour. Vous voulez participer à cette émission, le standard est ouvert. Composez les 099-706-9941. 099-706-9941. Achille, vous êtes là?
Allô?
Oui, allô? Bonjour Achille. Quelle est votre question? Allô? Voilà, il y a quelques soucis par rapport à la connexion. Patrick Kaondoa, vous êtes journaliste environnemental, vous avez mené une enquête sur la foresterie communautaire. Je posais tout à l'heure la question au professeur de savoir est-ce qu'il y a-t-il des modèles, des exemples, des cas, des foresteries communautaires qui marchent bien ici dans notre pays.
Exactement, il y a quand même des modèles qui marchent bien au pays, même si on n'y a pas beaucoup trop mis d'attention, vu également la grandeur de l'Équateur, par exemple, il y a des communautés qui ont réussi à se faire des hôpitaux, des écoles, grâce aux avantages tirés de la foresterie communautaire. C'est le cas également du côté du Gabon, parce que notre enquête a porté sur les deux pays. Il y a également quelques avantages qui ont été tirés de la foresterie communautaire et qui ont bénéficié aux différentes communautés. Et sur les plans également écologiques, parce que s'il faut parler du plan d'abord économique, il y a des chercheurs de l'université Kisangani et qui ont mené une enquête sur la rentabilisation des forêts communautaires en RDC, mais qui ont montré qu'en fait, la rentabilisation reste faible, alors que c'est pourtant un facteur qui incitera les communautés à soutenir ou à rejeter les modèles des foresteries communautaires. Mais sur le plan quand même écologique, il y a dans certaines zones, par exemple dans les corridors entre le parc national des Kahuzi-Biega et la réserve naturelle d'Itombwe, il y a quand même dans certaines zones où on a constaté que sur les plans écologiques, il y a quand même quelques améliorations par rapport à la couverture végétale, mais aussi il y a dans d'autres où le constat est resté le même, rien n'a changé, et dans notre communauté, on a constaté que malgré la foresterie communautaire, telle qu'on l'a dit bien avant, les communautés n'ont pas encore compris les avantages, et ces communautés ont continué à couper abusivement les arbres dans la forêt. Mais pour le cas de certaines forêts qu'on a visitées au Sud Kivu, il y a quand même également les communautés qui ont déjà compris qu'il faut sécuriser leurs forêts, et ces communautés ont commencé à s'organiser pour la sécurisation de leur titre. Il y avait des habitants qui utilisaient les forêts de façon abusive, juste pour leur survie. Et cette utilisation abusive était caractérisée par la déforestation, les braconnages et autres. Mais ce visage a quand même changé depuis qu'il y a eu ces titres pour la foresterie communautaire, et les habitants s'organisent pour sécuriser leurs forêts afin de les protéger contre le braconnage l'exploitation illicite. Et sur les terrains là où on était, il y a un comité de gestion de la forêt, et chaque semaine, ces comités s'organisent avec quelques volontaires également du milieu pour faire la surveillance de la forêt et voir s'il n'y a pas quelques intrus qui sont venus faire des activités frauduleuses dans leur forêt.
Bien. Et on va accueillir un monsieur Malonga de Bandundouville. Malonga, bonjour.
Oui, bonjour aujourd'hui. Et bonjour à tous ceux qui nous suivent.
Oui. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à la foresterie communautaire?
Oui, en tout cas, c'est encouragé. Vous savez, le système de culture et sylvopastoralisme détruit le sol, hein, et détruit aussi l'atmosphère. Mais les paysans se sont déjà habitués à cette culture-là de sylvopastoralisme. Mais pour les encourager au système d'agroforesterie, il faut leur encadrement vraiment qui doit être vraiment défini par l'État. Vous savez, les paysans, s'ils se sont déjà habitués à un système comme ça, pour le faire sortir à ça, il faut vivre ensemble avec eux. Par exemple, ici chez nous, à Bandundouville, la division provinciale de l'environnement exerce ça par leur site et essaie d'encadrer la communauté à ce système d'agroforesterie. Mais ils voient comme si ils ne produisent rien. Mais il vaut mieux de faire leur champ, couper les arbres, brûler, c'est par là où ils voient leur avantage. Or, ils oublient qu'en faisant cela, ils détruisent leur propre milieu. Alors, quand cela, on doit faire en forme d'innovation, hein, qui doit être progressive. Et si l'État s'en charge vraiment et s'intéresse aux paysans, et si les paysans arrivent à comprendre la signification, le sens d'agroforesterie que ça leur appartient et pour leur avantage, vous verrez que, en tout cas, ça sera très bien. Et puis, nos forêts, et comme nous sommes les patrimoines, en tout cas, nous serons très bénéfiques. Mais comme l'État ne s'en charge pas, vous savez, nous sommes à la radio ici. On parle. L'invité là, il parle des choses vraiment louables, mais sur le terrain, il n'y a rien. Il faut des matériels, les intrants, hein, les semences, tout ça. Si on donne ça au village, et puis il y a des agronomes et des spécialistes qui sont là, ils vivent avec les paysans ensemble, ils leur montrent, et à leur absence, ce système va rester continuel, et ça va servir à nous, et c'est l'État qui sera bénéfique à leur rapport. Mais si on laisse les paysans comme ça, vous voyez, on va toujours chanter aujourd'hui.
Bien, merci Chadrak. Vous êtes à Kabinda, bonjour.
Oui, bonjour, Jody Kachava.
Quelle est votre question par rapport à la foresterie communautaire? Allô Chadrak? Allô?
Allô?
Bien. Bon, il n'est plus là. On va l'accueillir plus tard. Professeur, qu'est-ce que vous pouvez dire à votre réaction par rapport à ce que Malonga a dit depuis Bandundouville?
Oui, je suis du même avis que lui, hein. Bon, c'est là où je devais revenir maintenant dans mon domaine, hein, l'agroforesterie.
Oui.
Puisque c'est parmi, hein, donc les alternatives pour lutter contre les invasions au niveau des forêts. Alors, aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'agroforesterie, ce n'est pas un domaine qui est difficile, hein, puisqu'on le pratique déjà depuis très longtemps. C'est question d'intégrer seulement les arbres dans un champ ou encore dans l'élevage.
C'est ça. Alors, qu'on appelle l'agroforesterie.
Oui, de manière simple, hein, je ne voulais pas utiliser une définition trop scientifique.
Tout
donc,
à fait.
Vous prenez seulement des arbres, vous les plantez dans votre... Votre champ,
oui.
Ou encore, là, vous menez des élevages, hein, mais tout en sachant comment les placer pour que ça ne puisse pas être en interaction négative avec les cultures. Alors, aujourd'hui, j'ai toujours dit aux gens, on peut commencer par des petits moyens aussi. Hein, lorsqu'on parle, par exemple, de la piforesterie, qui est, bon, en fait, c'est la production du miel ou, si vous voulez, l'apiculture, hein, dans un milieu où il y a des arbres. Les arbres mellifères, on en a partout, hein. Hein, les avocatiers, les safoutiers, les manguiers, même les acacias qui sont présents dans nos milieux,
oui.
Ce sont des arbres mellifères. Alors, donc c'est facile d'en faire déjà.
Mellifères veut dire quoi, hein? Qui peut produire le miel?
Non, bon, qui attire, hein,
qui attire les abeilles?
Les abeilles pour la production du miel. Hein.
D'accord.
Ouais, parce qu'on parle aussi des plantes pollinifères. Hein. Mm-hmm. Ça, c'est pour la production des graines de pollen.
D'accord. Donc, est-ce qu'on a déjà des exemples de l'agroforesterie?
Oui.
Des exemples qui marchent bien à travers le pays?
Oui. Oui. Mm. Si vous partez, par exemple, la réserve de biosphère de Louki, hein, à proximité de la réserve, les gens pratiquent déjà ce qu'on appelle l'apiculture, hein, qui est facile. Et en 6 mois déjà, c'est question qu'on puisse bien vous encadrer. Là, je reviens sur ce que Patrick a dit. De si un bon encadrement, qu'on montre aux gens comment entreprendre quelque chose, ils vont les faire. Hein. Vous les encadrez parce que et il faut tenir compte aussi, après les abeilles peuvent piquer aussi les gens. Mmh. Alors, il faut tenir compte de tout ça. Alors, donc, s'ils sont bien encadrés, ça peut produire beaucoup d'argent en rien du temps. Et on peut aussi, en produisant les arbres, comme nous savons déjà que dans nos villages, les gens ont déjà cette culture-là, de mettre un arbre, de planter des arbres. Alors, maintenant, si les arbres commencent à produire beaucoup d'argent, s'ils sont bien encadrés, hein, les arbres fruitiers, je ne parle pas des arbres fruitiers, s'ils sont bien encadrés, ils vont réduire tant soit peu leur dépendance vis-à-vis des forêts.
Des forêts. Hein.
Donc, lorsqu'ils ont un revenu, hein, ils sont occupés quelque part, hein, ils vont réduire les dépendances. Et leur montrer aussi que les arbres qu'ils vont planter peuvent aussi servir comme bois énergie. Vous comprenez? Parce que dans nos cultures, c'est difficile de dire aux gens de ne pas utiliser le bois de chauffe ou encore la braise.
Oui.
Ouais. Alors, il faut leur montrer aussi comment maintenant ils peuvent planter les arbres pour produire ce qu'on appelle le bois énergie. Hein.
Développer d'autres activités alternatives.
D'autres activités alternatives.
Bois pour de réduire chauffe, la pression sur la forêt.
La forêt, c'est
donc, vrai. Si on parle de la foresterie communautaire, ça veut dire qu'on responsabilise les
communautés locales. Hein.
Oui. Oui. Par rapport à la gestion de leur forêt.
Voilà.
Oui. Alors, Malonga a parlé tout à l'heure des feux de brousse. Est-ce que quand on va les responsabiliser, ils vont arrêter avec cette pratique de feux de brousse?
Bon, c'est un processus. Hein, parce que dire aux gens d'arrêter, c'est difficile. Hein, parce que j'ai été beaucoup de fois sur le terrain. J'ai vu des gens qui défendent leurs intérêts. Bon, pour ce qui concerne l'agriculture itinérante sur Bouli. Je parle par exemple de la culture des haricots pendant la saison sèche. Au Congo central, les gens ont déjà cette habitude-là. Dans des milieux marécageux, et lorsqu'ils arrivent au niveau de la saison sèche, donc c'est cette portion de terre-là, ou encore ces milieux-là, qui leur sert de reproduire les haricots pendant la saison sèche. Mmh. Donc c'est difficile. Et ils ont toujours l'habitude de brûler. Alors, parce que c'est leur culture. Hein. Mais, comme j'ai dit, les gens ne peuvent pas commencer à changer les mentalités du coup.
Du coup, comme ça prend du temps.
Il faut des gens témoins qui voient réellement que si vous avez réussi, eux aussi peuvent réussir. Mais s'il n'y a pas des gens témoins, vous leur parlez seulement que non, l'agroforesterie donne des bénéfices, ainsi de suite. Mais ils n'en trouvent pas parce qu'ils sont mal encadrés. Ils vont revenir avec leur savoir comment endogène.
Alors, qui doit encadrer ces communautés pour qu'elles arrivent à bien gérer les forêts?
Commençons là par l'autorité publique. Hein, donc, au niveau les administrations publiques ou encore, si vous voulez, les ministères au sein des provinces. On peut parler aussi, comme nous parlons de la foresterie communautaire, les gestionnaires maintenant, parce que tout le monde est là. Donc, vous parlez le même langage. On peut même interéchanger les idées pour ce qui concerne l'agroforesterie, qui sera un modèle pour lutter efficacement contre, si vous voulez, les pratiques d'agriculture sur Brili.
Donc, à côté des forêts, il faut développer aussi l'agroforesterie. Bien, on va accueillir Sylvain Kalonga de Kananga et Achille de Lumbashi. Sylvain, bonjour. Quelle est votre question?
Bon, merci beaucoup, Jody Nkashama, pour la parole. Mais nous venons de saisir la parole et puis l'appel. Je ne sais pas le sujet, vous pouvez m'expliquer.
Donc, vous n'êtes pas au courant du sujet du jour, mais pourquoi vous avez appelé? D'accord. On va passer à Achille et puis on va revenir à vous tout à l'heure. Achille, bonjour. Achille, vous êtes à Lubumbashi, bonjour. Voilà, il y a un souci au niveau de la communication. Patrick Kaoundoua, quelle est votre réaction par rapport aux explications du professeur tout à l'heure, qui parle de la, il est important de développer l'agroforesterie, qui est des champs modèles à côté, et puis ça va aider ces communautés à bien gérer les forêts.
Exactement, l'agroforesterie, c'est un modèle qui pays d'Afrique également. En RDC, il y a quelques exemples, dont notamment dans la province du Congo central, où cela marche en tout cas. Mais en fait, pour arriver à ce que la population comprenne exactement les avantages de la foresterie communautaire, comme le professeur l'a dit, il faut qu'il y ait d'abord la volonté de l'autorité, des autorités. Parce que dans plusieurs communautés qu'on a visitées, il y avait en tout cas des difficultés majeures. Parfois, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de routes, il n'y a pas d'hôpitaux. Les gens sont obligés à parcourir plusieurs kilomètres pour arriver à un hôpital ou à une école, et ça pose problème. Donc, il faut qu'il y ait d'abord l'autorité publique qui s'investisse dans ça. Je pense qu'avec le projet de développement des 145 territoires du président de la République, cela va aider tant soit peu ces communautés-là. Il y a également, sur le terrain, on a trouvé quand même quelques organisations non gouvernementales qui accompagnent ces communautés-là dans l'acquisition des titres, et ces organisations comprennent que avant que les communautés ne bénéficient des retombées de la foresterie communautaire, il faut leur donner la contrepartie, parce que si ces communautés vont abandonner l'exploitation dans leur forêt, il faut qu'il y ait des activités qui permettent à ces communautés-là de survivre malgré tout. Et c'est dans ce sens qu'il y a des ONG qui distribuent par exemple des semences, qui construisent des écoles et qui font également certaines formations à l'endroit des membres des communautés. Et moi, je pense qu'avec de telles actions, la communauté va comprendre exactement l'avantage de la forêt communautaire. Parce que le plus grand problème, c'est l'adhésion de la communauté à la foresterie communautaire. Tant que la population qui s'abstient de mener l'exploitation au sein des forêts dans lesquelles elles menaient toujours leurs activités, ça posera toujours problème. Il faut qu'il y ait, en tout cas, d'autres activités de substitution. Donc, si on dit à la communauté abandonner la déforestation, il faut qu'il y ait d'autres activités,
d'autres alternatives
de substitution.
Oui.
Exactement.
Bien, on va accueillir Trésor de Likassi et puis Achille de Lubumbashi. Trésor, bonjour, et quelle est votre question? Trésor, vous êtes à Likassi, bonjour. Il n'est pas là. Achille de Lubumbashi, bonjour. Voilà, quelques soucis. On a des soucis par rapport à la liaison téléphonique. Bon, professeur, je reviens à vous par rapport au sujet du jour, la foresterie communautaire. Alors, qui doit responsabiliser la communauté? Est-ce qu'il faut qu'il y ait un comité constitué autour du chef coutumier pour gérer la forêt? Comment la communauté va s'organiser pour assumer ses responsabilités?
Bon, avant que je réponde à cette question, ben, nous savons tous qu'il y a une grande difficulté entre la gestion des forêts par les communautés locales et puis par l'État. Le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. Alors, c'est l'État qui est le premier gestionnaire des forêts.
Oui.
Maintenant, les chefs coutumiers aussi, leur pouvoir aussi est reconnu par l'État. Parfois, bon, eux pensent, c'est ce qu'ils disent à leur progéniture, que c'est notre forêt.
C'est notre forêt.
Oui, ça. Non, l'État doit arriver à résoudre ces problèmes-là. Parce que quelqu'un qui est déjà informé que il est bénéficiaire de cette forêt, c'est difficile qu'il puisse écouter tout ce que vous allez lui dire. Hein. Moi, j'ai rencontré quelqu'un, une fois j'étais, quand je venais mes études doctorales au Congo central, il me disait que, monsieur, est-ce que vous pouvez comprendre que je suis en train de voir des arbres ou encore des animaux, entre-temps, moi, je meurs de faim. Oui. Donc il faut lui parler maintenant. Il faut maintenant créer quelque chose pour lui pour qu'il puisse ne pas venir détruire la forêt. Alors, donc tout ça, les conflits là qui existent entre l'État et les chefs coutumiers, hein, c'est ce qui est la base même des. Bon, si vous voulez, bon, qu'on ne puisse pas avancer dans ces processus. Hein. Mm. Alors, eux pensent que c'est leur propriété. Maintenant, l'État maintenant doit pas imposer, mais faire comprendre aux gens les bénéfices qu'ils peuvent tirer. Mais si l'État s'impose, eux maintenant, parce que vous n'allez pas commencer à gérer la forêt avec des papiers, ils sont là. Hein, donc, dans la forêt ou encore aux alentours de la forêt. Mm. Ils peuvent venir la nuit ou je ne sais pas comment, même si vous mettez les gardes. Alors, l'État doit chercher des mécanismes durables, dirais-je, pour que les gens là ne puissent pas venir s'attaquer aux produits forestiers.
Hassan nous appelle de Kisangani, bonjour.